Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la journée porte ouverte de l'EFMA, Espace Formation des Métiers et de l'Artisanat à Bourgoin-Jallieu. À cet EFMA, 5 filières, 36 formations. Aujourd'hui, sur cette table ronde avec moi, nous avons Georges Burba, président de la Chambre des Métiers de l'Artisanat de l'Isère, Thierry Joseph, directeur, Catherine Monnier, responsable beauté, Corinne Barthes, prof de mathématiques et de sciences section auto, et puis Christina Villain, qui est en première année de BEP esthétique. Alors tout d'abord, monsieur Burba, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la présence de la Chambre des Métiers ici ?
La présence de la Chambre des Métiers pour deux raisons fondamentales. C'est que d'abord, l'artisanat est très attaché à l'apprentissage et à l'alternance. Que c'est par l'apprentissage et l'alternance qu'on fait la passation des savoirs, donc de nos métiers, des savoir-faire et aussi des savoir-être. Parce que souvent, comme dit, vous verrez, Thierry Joseph va sûrement le redire, quand on prend un jeune ici, c'est un jeune et il ressort, c'est presque un adulte. Et il a acquis des savoirs, il a aussi acquis des savoir-être. Et notre présence ici, elle est doublement importante pour ces savoirs et aussi que ce centre, c'est le seul CFA en région Rhône-Alpes Auvergne qui soit géré par une chambre des métiers d'artisanat.
Alors, monsieur Thierry Joseph, 5 filières, 36 formations. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu quelles sont ces filières qui sont proposées ?
Oui, tout à fait. Donc, ces filières sont répartis dans différents univers professionnels. On a d'abord une filière dédiée au métier de l'automobile, avec la carrosserie, la peinture et la maintenance automobile. Ensuite, on a une filière dédiée au métier de bouche, boulangerie, pâtisserie, boucherie et charcuterie. On a ensuite un pôle dédié au métier de la restauration, donc avec les professions de la cuisine et les métiers de la salle. Et puis enfin, on a un pôle donc qui a ouvert il y a maintenant un peu plus de 3 ans, dédié au métier de un pôle beauté, dédié au métier de la coiffure, de l'esthétique et aussi de la vente.
Combien d'étudiants accueillez-vous chaque année ?
Alors, on a entre 1100 et 1200 étudiants sous différents statuts chaque année. Et à l'heure actuelle, on doit avoir à ce jour 1120 inscrits dans l'établissement répartis sur ces 5 filières.
Alors, quel est le profil d'un étudiant qui arrive chez vous ?
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que, justement, c'est une des caractéristiques de l'établissement, c'est la diversité des publics que l'on accueille. Alors, on a quand même une tendance générale qui est l'accueil de jeunes sortant de 3e, avec un profil qui est celui d'un jeune qui peut, à l'issue de la 3e, s'orienter soit vers la voie générale, soit vers la voie professionnelle. Mais on a aussi, et ça je crois qu'il faut qu'on le dise, donc au travers de ce type d'émission, de plus en plus des publics avec des profils issus de seconde, première ou terminale générale. On a aussi des jeunes qui ont eu un bac général ou technologique et qui ensuite envisagent, après l'obtention du bac, d'aller vers une filière professionnelle. Et on a aussi des jeunes qui ont entamé, pour certains, un parcours universitaire et qui reviennent ensuite, pour des raisons souvent personnelles, à l'apprentissage d'un métier.
Est-ce que vous avez aussi des adultes en reconversion ?
Ça aussi, c'est un point sur lequel cette émission doit permettre d'apporter un éclairage. C'est que l'EFMA, quand on essaye d'épeler le sigle, Espace Formation des Métiers de l'Artisanat. On ne s'appelle pas CFA des Métiers de l'Artisanat. Espace Formation, c'est un sigle qui signifie qu'effectivement, on accueille des jeunes en apprentissage, mais c'est aussi un établissement qui est dédié à l'accueil de tout public, des jeunes mais des adultes, des salariés, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion. Et donc, chaque année, nous accueillons dans nos différentes formations ce type de profil qui viennent s'intégrer dans les groupes dans lesquels il y a des apprentis. Il y a de la mixité dans la vie sociale, il y a de la mixité dans la vie professionnelle, mais on trouve aussi un mélange du public au sein de la vie de l'établissement.
Quels sont les diplômes que vous proposez, auxquels les étudiants vont accéder ?
Alors, déjà, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que dans les différents métiers qu'on a listés tout à l'heure, on propose des filières de formation. C'est-à-dire qu'on peut entamer un parcours, que ce soit en boulangerie, en carrosserie, en coiffure ou dans les autres métiers, depuis la classe de 3e, en commençant par un CAP, en poursuivant par un brevet professionnel ou un bac professionnel, et en terminant par des formations post-bac. Et donc, en particulier, il faut peut-être préciser que ces dernières années, on a pu ouvrir deux brevets de maîtrise, un brevet de maîtrise en coiffure, un brevet de maîtrise en esthétique. On a aussi une formation bac plus 2, un titre d'entrepreneur de la petite entreprise. Donc nos formations vont du pré-apprentissage en passant par le CAP, les BP, les bacs professionnels et les formations post-bac puisqu'on va jusqu'au bac plus 2.
Donc là aussi c'est important de préciser qu'on a vraiment une transformation. L'apprenti n'est plus l'apprenti qu'on connaissait il y a une trentaine d'années.
Absolument pas. D'abord l'offre de formation n'est pas celle qu'on proposait il y a une trentaine d'années. Moi quand j'ai démarré ici, il y a très longtemps maintenant, on proposait essentiellement des CAP. Aujourd'hui le public en CAP c'est que 40% de nos effectifs. La grande majorité de nos apprentis sont dans des formations au-delà du CAP. Donc ça, c'est important de le dire. C'est important de dire que l'apprentissage sont des parcours de formation. Et parcours, ça nécessite et ça implique des études professionnelles longues, et que donc apprendre un métier, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques mois, c'est quelque chose qui se fait sur la durée, et que ce sont de vraies études, donc des études professionnelles longues. Mais ces études professionnelles longues permettent l'insertion qualitative et durable de nos apprentis. 90% d'entre eux sont dans l'emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de leur formation.
Alors justement, la particularité de votre établissement, c'est aussi la relation entreprise, puisque pour pouvoir être apprenti, il faut un maître d'apprentissage. Alors comment ça se passe, cette relation ?
C'est même central, parce que la plus-value ou la valeur ajoutée de l'apprentissage, c'est justement la vie en entreprise qui permet de cumuler l'acquisition d'un diplôme avec une expérience professionnelle. Aujourd'hui, à l'occasion d'une journée porte ouverte comme celle-ci, les familles et les jeunes qui viennent nous voir, certes, viennent pour qu'on les informe sur les métiers, qu'on leur précise les filières, qu'on leur explique comment tout ça, ça fonctionne, mais souvent le choix est fait. Ils viennent nous voir surtout pour qu'on les accompagne dans la recherche d'une entreprise. Et là, donc la chambre de métier, dans le service que l'offre aux familles, aux jeunes et aux entreprises, a un centre d'aide à la décision qui permet de rapprocher l'offre et la demande, c'est-à-dire qui permet d'une part de connaître les intentions de recrutement des entreprises et d'autre part de recevoir des jeunes qui, après validation de leur projet, validation d'un certain nombre de points qui permettent de s'assurer que la mise en relation est possible, va ensuite donc s'occuper de mettre en relation les entreprises qui cherchent avec des jeunes qui demandent une formation d'apprentissage. Ça, c'est une fonction que je pense qu'il faut souligner. C'est une fonction que les chambres de métiers, notamment la nôtre, celle de l'Isère, considèrent comme déterminante et prioritaire, c'est-à-dire permettre à ces jeunes de trouver une réponse à leur projet et aux entreprises, parce qu'une chambre de métiers est surtout au service des entreprises, aux entreprises de trouver un jeune qui correspond à leurs besoins.
Est-ce que vous arrivez toujours à avoir l'adéquation entre les deux ?
Non. L'adéquation emploi-formation, c'est ce vers quoi on essaye de tendre. Elle n'est pas toujours possible pour tout un tas de raisons. Mais malgré tout, on essaye, donc le plus possible, de permettre aux entreprises de trouver la personne qu'ils cherchent et aux jeunes de trouver l'entreprise dont ils ont besoin.
Alors justement, là, je me retourne vers M. Georges Burba. Est-ce que c'est difficile des fois de rapprocher l'entreprise du jeune ? On en a parlé antérieurement, notamment par rapport à toutes les lois qui existent. Est-ce qu'il est compliqué de pouvoir donner un accès aux jeunes à ces entreprises ?
Non, c'est pas difficile. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Thierry Joseph. Le but de l'EFMA, le but d'un CFA, c'est de répondre aux besoins de la profession. On n'est pas là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour faire des diplômes, on n'est pas là pour former des jeunes qui débouchent sur rien, on est là pour répondre aux besoins des entreprises. Ça, c'est le job de la chambre de métier. Ensuite, le job de l'EFMA et des enseignants, et je voudrais là tirer un coup de chapeau parce que là, on a quand même du personnel de très très grande qualité et très investi, c'est de former ces jeunes le mieux possible. Donc ensuite, ça devient un peu plus difficile aujourd'hui des jeunes mineurs, de les caser. Parce que, comme je disais hier au préfet d'ailleurs, on met l'entreprise dans une situation de hors-la-loi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas former un jeune en respectant à la lettre le code du travail. Ne serait-ce que sur les horaires, sur les machines dangereuses, les travaux en hauteur et autres. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont de plus en plus réticents de prendre un jeune mineur dans leurs entreprises. Et ça, c'est catastrophique. Et ça, il faut que nos dirigeants politiques s'y penchent un peu dessus et puis qu'ils arrêtent de gamberger un peu dans le vide et qu'ils viennent nous demander ce qu'il faut faire. Vous verrez que ça ne coûtera rien à personne et on aura des solutions qui arrangeront tout le monde. Donc si les hors-sol viennent nous voir un peu, nous qui avons les pieds sur terre, vous verrez que ça ira mieux.
Alors justement, Thierry Joseph, est-ce que c'est pas au législateur de revoir tout ça pour que nos jeunes puissent effectivement intégrer des entreprises sans problème ?
Oh, certainement. Alors là, c'est vrai que c'est un sujet qui nous dépasse un peu, mais comme le dit le président, des fois, il y a des mesures de bon sens qui paraissent évidentes quand on est sur le terrain et qu'on a du mal à comprendre quand on les voit arriver. Avec un peu d'optimisme, on peut espérer que la raison finisse par l'emporter. Je vais prendre juste un exemple. Pour un jeune qui n'a pas 15 ans le jour de la rentrée scolaire, il ne peut pas signer un contrat d'apprentissage. Alors jusqu'à présent, c'était possible. Par dérogation, une entreprise pouvait embaucher un apprenti à condition qu'il ait 15 ans avant le 31 décembre. Aujourd'hui, il faut qu'il ait 15 ans révolus. Donc on a imaginé quelque chose de complexe pour permettre malgré tout à ces jeunes de venir, alors que pendant de longues années, ça fonctionnait très bien. Ça n'a posé aucune difficulté. Et là, la réglementation est venue compliquer, troubler l'esprit des jeunes et des familles, parce que bon, ils ont tendance à penser que c'est pas possible, alors que malgré tout, ça l'est quand même. Voilà, c'est le genre de situation qu'on pourrait éviter, qui apporterait un peu plus de lisibilité, qui susciterait moins d'inquiétude chez les jeunes et leurs parents. Bon, avec un peu de bon sens, si on revient en arrière et si on revient à cette dérogation possible pendant des années, donc on simplifie les choses, on fluidifie le système. Comme le dit le président, ça coûte rien. Simplement, c'est une mesure qui semble tomber sous le sens et dont on se demande parfois pourquoi elle est mise en pratique. Voilà, c'est ça aussi la réalité de l'apprentissage. Donc notre rôle aussi, quand dans ces journées portes ouvertes, c'est aussi de dire aux familles, vous inquiétez pas malgré tout, on va trouver des solutions. Mais pour trouver ces solutions, il faut parfois prendre des chemins de traverse, alors que parfois la voie directe quand même était beaucoup plus simple pour tout le monde.
Oui, surtout qu'un enfant qui sort en classe de 3e, c'est l'âge qu'il a à 15 ans, normalement.
Bien sûr, c'est ça, bien sûr.
Alors là aussi, pour casser tous les préjugés, souvent la voie de l'apprentissage, c'est la voie de l'échec. Pour beaucoup de familles, pour beaucoup de parents, là aussi, je pense qu'il y a une éducation des parents à faire.
Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et donc je suis pas sûr que notre émission y suffise. La voie de l'apprentissage, c'est un discours que tous ceux qui connaissent bien l'apprentissage partagent. La voie de l'apprentissage, c'est la voie de la réussite. Voilà. C'est la voie de la réussite. Pourquoi ? Parce que on trouve du travail. Voilà. 90% de nos jeunes diplômés trouvent du travail. Par les temps qui courent, quand on parle du problème de l'emploi des jeunes, je crois que ce message, il faut le marteler de manière inlassable. L'apprentissage conduit à l'emploi. Voilà. Ce n'est pas la voie de l'échec, c'est la voie de l'insertion sociale et de l'insertion professionnelle. Le président évoquait tout à l'heure que les jeunes, on les forme, on leur apprend un métier, ça leur permet de rentrer dans la vie active, dans la vie économique, puis cela leur permet aussi de s'intégrer dans la société, donc de trouver leur place en tant que citoyen. Donc un établissement comme le FMA et l'apprentissage en général, ça forme des jeunes, ça forme de futurs professionnels, mais ça transforme. Les jeunes qui sortent du collège, quand ils sortent 4 ou 5 ans plus tard, sont de jeunes adultes, ils ne sont plus les mêmes. Mais l'apprentissage a accompagné cette transformation. Et c'est parce qu'on s'est transformé, c'est parce qu'on a évolué, c'est parce qu'on a grandi, aussi qu'on trouve un métier. Parce qu'on insiste beaucoup dessus ici, nos élus y tiennent également, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un métier pour intégrer une entreprise. Il faut aussi avoir intégré les codes de la vie active, les codes de l'entreprise, tout ce qui est savoir-être, comportement au sein d'une entreprise, comportement au sein d'une équipe. Si on n'a pas acquis tout ça, c'est difficile de trouver sa place. Mais l'apprentissage permet, lorsque le jeune a fini son parcours, d'avoir acquis ses codes et pouvoir intégrer tout de suite l'entreprise. Nos entreprises cherchent ça aussi. Des gens qui sont techniquement au point, mais qui aussi savent aussi comment ça fonctionne une entreprise, comment gérer une relation hiérarchique avec un employeur, comment s'intégrer dans une équipe. C'est aussi tout ça qu'on apprend en apprentissage. Et c'est le travail des équipes. Le président l'a dit, je veux aussi le dire, c'est le travail d'une équipe. Le FMA, c'est un établissement, mais comme toute structure, un établissement repose sur l'équipe qui travaille au sein de la structure. Et c'est aussi une pédagogie alternative, l'apprentissage. C'est apprendre un métier autrement. Voilà. C'est une alternative qui a fait la preuve de son efficacité, qui a fait la preuve aussi par les résultats qu'elle obtient, qu'elle permet de conduire à l'emploi et à la réussite. Et c'est ce genre d'émission, ce genre de journée porte ouverte, ça contribue aussi à délivrer ce discours. Nous, on le sait, mais il faut aussi que le grand public puisse le savoir. Et bon, votre émission y contribuera.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite pause musicale et on va continuer notre table ronde.
Smack it in the air. Shoulder sideways. Smack it in the air. Smack it. she think the kitty right back will be that she can never see the edges. King is sweating on my blowout, sweating on my presses. Trick about to go off, mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you, fresher than you. Oh.
Donc maintenant, je vais faire appel à Catherine Mounier, qui est responsable beauté-vente, toujours à l'EFMA à Bourgoin-Jallieu. Alors, quelle est votre fonction au sein de cette structure ?
Alors donc, je suis en charge du pôle beauté-vente et je dois veiller à ce que notre offre de formation, qui va donc du pré-apprentissage au brevet de maîtrise, donc niveau Bac plus 2, soit adaptée aux besoins des entreprises qui donc vont recruter des apprentis. Donc proposer de nouvelles formations qui répondent aux besoins et aux attentes des chefs d'entreprise et également des apprentis et de leurs familles. Et je dois aussi donc gérer le pôle, animer l'équipe pédagogique, veiller à ce que les ressources qui nous sont allouées soient bien utilisées, veiller aussi à ce que les examens soient bien organisés, que les apprentis passent leurs examens dans de meilleures conditions possibles.
Quelles sont les formations que vous proposez au sein de ce pôle ?
Alors donc le pôle beauté-vente propose une filière complète en esthétique, hein, du pré-apprentissage, en passant par le CAP, le brevet professionnel, le BP et le brevet de maîtrise. Même chose en coiffure, donc pré-apprentissage, CAP, BP et BM. Pour les formations, pour la vente, nous avons une formation CAP, vente de produits alimentaires ou produits équipements courants. Et nous proposons aussi, dont M. Joseph en a parlé, le titre TEPE, titre entrepreneur de la petite entreprise, donc qui est aussi un niveau Bac plus 2 et qui permet donc aux personnes déjà titulaires d'un BP ou d'un Bac pro d'acquérir des compétences managériales, commerciales, financières, complémentaires pour devenir un futur décideur et avoir la posture du futur chef d'entreprise.
Alors quels sont vos rapports vous aussi avec l'entreprise ? Est-ce que vous avez des difficultés à placer vos jeunes ou pas ?
Alors donc on a des liens très proches avec les entreprises, puisque donc les entreprises, on rentre en contact avec eux grâce au suivi en entreprise. Donc là on peut déjà mesurer les besoins, parce que les entreprises nous font part de leurs besoins, et ensuite donc on leur conseille aussi de s'adresser au centre d'aide à la décision pour trouver un jeune, donc puisque le centre d'aide à la décision fait la mise en relation. Nous-mêmes parfois on reçoit aussi des annonces, donc on peut aussi les renseigner sur telle ou telle offre qu'on a reçue, renseigner les jeunes sur telle ou telle offre. Donc on rentre en contact grâce au suivi. Aussi il y a des réunions qui sont organisées au sein de l'EFMA avec les maîtres d'apprentissage, où là on peut discuter avec eux sur leurs besoins. Après il y a des forums aussi, on est présent sur des forums, on peut renseigner les apprentis et aussi leur donner des pistes pour se diriger vers telle ou telle entreprise qui aurait des besoins en apprentissage. Donc on essaie de faire en sorte que justement la mise en relation soit facilitée, et on s'appuie, comme je l'ai dit, sur le service, le CAD, le centre d'aide à la décision.
Combien de jeunes accueillez-vous sur cette filière ?
Alors, sur le pôle beauté, il y a à peu près 300 jeunes. En esthétique, on a à peu près une centaine d'apprentis. En coiffure, à peu près 200. Et puis, donc, en vente, à peu près une quarantaine. Et puis, il y a la formation TEPE. Donc là, c'est des promotions de 12 maximum. Et il y a aussi donc les pré-apprentis qui sont 24. Donc, trois métiers, beauté, beauté-vente, automobile et alimentation-restauration pour les pré-apprentis.
Est-ce que c'est une filière qui est beaucoup demandée ?
Alors, la vente est toujours très demandée. On a des effectifs qui sont complets. Après, en esthétique et en coiffure, les effectifs sont fluctuants d'une année sur l'autre. On sent quand même les effets de la crise sur le pouvoir d'achat. Ceci dit, bon, il y a quand même des... L'un dans l'autre, nos effectifs se sont maintenus. Bon, les entreprises ont trouvé des solutions pour pallier cette conjoncture qui est défavorable. Et puis donc nous, on est aussi là pour former des apprentis qui vont pouvoir aussi accompagner les entreprises dans le développement de leur activité. Donc voilà, l'objectif, c'est de les former au mieux aux attentes des maîtres d'apprentissage pour qu'ils puissent jouer leur rôle de professionnels, mais aussi les aider dans la vente de produits, notamment en esthétique ou en coiffure, parce que donc ça fait partie aussi du maintien de la marge pour un salon ou un institut.
Est-ce que vous pouvez être amené à modifier le contenu d'une formation par rapport à des demandes ou par rapport au secteur dans lequel vous évoluez ?
Alors, nos formations sont principalement des diplômes de l'éducation nationale, où là, nous avons un référentiel à respecter. Après, nous avons aussi des titres professionnels de la chambre de métier. Il y a aussi un référentiel à respecter. Après, on peut s'adapter au parcours de la personne. Suivant son parcours, après on pourra mettre l'accent plus sur le professionnel ou le général. Ça, oui, on est en capacité de faire un plan de formation pour s'adapter, oui.
Alors justement, avec nous, on a une jeune étudiante, Christina Villain, qui est en première année de BP esthétique. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, puisque vous avez un parcours un peu atypique, puisque vous venez de la filière générale et vous avez souhaité à un moment donné changer de filière ?
Oui, donc j'ai effectué un bac S et après, en fait, j'ai fait une licence que j'ai arrêtée pour me lancer dans l'esthétique. Donc j'ai fait mon CAP en 4 mois, j'ai payé une formation par correspondance. Et en fait, j'ai connu le fait à masque durant cette formation, on est obligé de passer une formation d'UV. Et du coup, j'avais le choix entre deux établissements. Donc le premier m'a refusé parce que justement, j'apprenais chez moi. Et du coup, le FMA a été coopérative avec moi. Et du coup, j'ai pu venir ici faire ma formation.
Alors pourquoi le choix de l'alternance ?
L'alternance, ça fait mûrir déjà en premier temps. Et après, on apprend avec des professionnels déjà sur le tas. On arrive à mieux s'insérer dans la société. Et après, moi, c'était mon choix à moi parce que l'école en continu, on n'a pas autant de pratiques que ce qu'on fait sur le terrain.
Alors, quels sont vos projets à venir ?
À l'issue de cette formation, en premier temps, c'est donc d'être salarié dans un institut ou ou sur des croisières ou des choses dans ce genre. Ou après, plus tard, former un salon.
Alors justement, vous venez d'une filière généraliste, vous êtes passé dans une filière professionnelle. Alors quelles ont été les facilités pour vous, puisque effectivement dans ces cas-là, on a des adaptations de parcours, de formation. Vous avez pu éviter certaines choses, vous nous avez expliqué.
Oui, j'ai pu être exonérée de toutes les matières générales, donc tout ce qui est maths, français, histoire, géo, en sachant que j'avais déjà mon bac, j'avais pas besoin de les repasser, donc j'ai que les matières professionnelles.
Alors justement, aux jeunes qui nous écouteraient, vous leur diriez quoi ? De foncer, parce que là, au bout du chemin, il y a un emploi ?
Ah oui, oui, sûr, parce que du moins avec un bac général ou juste une licence, on n'a pas forcément d'emploi. Alors que là, avec un brevet professionnel ou un brevet de maîtrise, on a directement la société à nos pieds. Voilà, on a les patrons, quoi.
Et on vous sent complètement épanoui ? C'est vraiment un choix que vous avez fait ?
Tout à fait. Moi, je suis mieux sur le terrain. La filière que j'ai prise, ça me plaît, donc je suis bien.
Quelle est votre situation dans une entreprise ? C'est pareil, passer d'une filière générale ou licence où on est un petit peu au-dessus de tout ça, à se retrouver vraiment à travailler. Quel est votre rapport vis-à-vis de tout ça ? Puisque là, maintenant, vous êtes en entreprise, en alternance.
Le fait d'avoir fait mon bac, ça me permet quand même d'avoir un peu plus de maturité, quand même. Parce que c'est vrai que les personnes qui sortent de troisième, elles sont encore un peu folles. Ça me permet de mieux comprendre ce que ma patronne, parfois, veut me dire. Mais après, ça s'acquiert durant les mois de formation avec notre patronne, à mieux comprendre ce qu'elle veut nous faire apprendre, en fait.
Et puis elle est là pour vous, votre tuteur.
Oui. On est formé sur l'école, mais on est formé aussi sur le terrain. Donc on apprend deux fois plus vite.
Alors, quand vous entendez ce témoignage, madame, là aussi, c'est une belle réussite, en fait, de faire venir des jeunes issus d'autres formations.
Oui, cette mixité par rapport au parcours enrichit aussi, je dirais, une classe, enfin, un groupe, parce que les profils qui sont différents se complètent. Pour le professeur aussi, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir des personnes avec une maturité, comme l'a dit Christina, plus importante. En plus, il y a une diversité géographique puisque nous sommes le seul établissement à proposer en apprentissage une filière aussi complète. Donc, ça nous permet d'avoir des personnes avec une expérience et un historique différent, mais aussi d'une provenance géographique hétéroclite. Donc voilà, on s'adresse à un public finalement qui est très large.
Quel est le profil dans votre filière? Je suppose qu'il y a plus de filles que de garçons.
Alors, en esthétique, nous n'avons que des filles. Il y a 6 ans, quand nous avons commencé la filière esthétique, un garçon s'est présenté. Il avait un bac, il a fait son CAP en 1 an. Et il est parti après sur une poursuite de formation pour du maquillage professionnel. Donc ça a été le seul garçon que nous avons accueilli. En revanche, en coiffure, c'est un public majoritairement féminin. Toutefois, il y a quelques garçons qui sont chez nous et qui réussissent aussi bien que les filles.
Parce que là aussi, ça pourrait être un sujet dans les autres filières que sont l'automobile. Effectivement, on a du mal aussi à faire venir des filles sur des métiers dits entre guillemets masculins et vice-versa. Alors, je voudrais faire intervenir Madame Corinne Barthes, qui est professeure de mathématiques et de sciences, section auto. Alors là, c'est pareil. Quelle est votre expérience et votre retour sur expérience avec tous ces jeunes qui viennent chez vous?
Donc, moi, je suis enseignante à l'EFMA depuis 20 ans. J'ai commencé plutôt par le secteur alimentation et maintenant je m'occupe principalement des bacs pro automobiles. En maths sciences, on essaye vraiment de créer du lien et je crois que c'est ce qui nous différencie des collèges. Notre formation permet de travailler vraiment en équipe pédagogique avec l'enseignement professionnel et le but est vraiment de créer du lien pour que les jeunes sachent pourquoi ils font des maths, pourquoi ils font des sciences, du français. Le fait de travailler comme ça en équipe pédagogique, d'aller voir les jeunes dans les ateliers, ils sentent qu'on est là, qu'on leur fait confiance et eux aussi, ils vont nous donner cette confiance dont on a besoin tous pour réussir en fait. On dit qu'on est enseignant, mais on est plus accompagnateur, formateur. Le métier d'enseignant a énormément changé et je crois qu'on n'est plus sur notre façon de faire d'avant où on donnait un cours et le jeune écoutait. On travaille vraiment différemment, on travaille par groupe. Leur apprentissage, ils se le font eux-mêmes, entre eux. C'est comme ça qu'on peut apprendre.
Alors effectivement, une matière comme les maths et la science physique dans un centre d'apprentissage, certains vont se demander pourquoi ils font des maths et de la science physique et puis même peut-être du français dans certains cas.
Oui, mais justement, tout l'art est de leur donner envie et de leur montrer que dans les autres matières qui sont plus professionnelles, les mathématiques sont un outil et ils sauront réutiliser les choses, les notions qu'ils auront vues en classe. On peut partir sur une idée de climatisation, par exemple, en automobile. Eh bien, en science, on va traiter les prérequis, ce dont ils vont avoir besoin pour après pouvoir réussir dans le domaine professionnel.
Est-ce que ce sont des jeunes qui arrivent avec des handicaps ou pas du tout?
Je ne parlerai jamais de handicap.
Est-ce que c'est encore un préjugé, là aussi?
Oui, complètement. Je crois qu'à partir du moment où on a un projet professionnel, mais tout est possible. Tous les jeunes qui arrivent chez nous, s'ils savent ce qu'ils veulent faire et vers quoi ils veulent aller, ils réussissent.
Alors justement, vous nous avez dit en ouverture que cela faisait 20 ans que vous étiez ici. Quelle est l'évolution durant ces 20 années? Comment avez-vous vu les jeunes évoluer?
Les jeunes sont très demandeurs maintenant de sens, ils veulent du sens. Leur formation, ils ne vont pas la faire et accepter comme ça ce qu'on leur donne. Non, ils veulent qu'on leur explique pourquoi on fait ces choses-là, pourquoi on va développer telle connaissance. Et je crois que c'est là où l'enseignant va devoir un petit peu changer ses pratiques et ses méthodes pédagogiques pour être à l'écoute du jeune et de l'entreprise. J'en ai pas parlé, mais je suis en lien permanent avec les entreprises. On fait des visites d'entreprise régulièrement. Je travaille aussi sur une formation de maître d'apprentissage où on peut échanger et chacun apprend de l'autre. C'est-à-dire que le maître d'apprentissage apprend de nous, mais nous aussi on apprend beaucoup. C'est un véritable échange entre le FMA et les entreprises.
Parce que là aussi, ça ne s'invente pas. Le maître d'apprentissage, il est leur professeur dans l'entreprise. Et là aussi, il faut qu'il soit bien formé pour pouvoir transmettre son savoir et son savoir-être.
Voilà, un maître d'apprentissage, c'est aussi un métier, en fait. Et ils ont aussi des choses à apprendre. Et nous, on le fait à l'EFMA régulièrement. On leur explique. C'est pas vraiment qu'on leur explique, mais... on va découvrir ensemble ce que c'est que le tutorat. Voilà, parce que c'est du tutorat.
Et est-ce que les jeunes sont réceptifs effectivement à ce lien entreprise-école, puisqu'on a toujours aussi ces fameux clivages, éducation nationale, entreprise. Est-ce que là aussi, à l'EFMA, on arrive à casser ces clivages?
Ce lien, il est très important. Les jeunes ont besoin de savoir qu'on connaît leur maître d'apprentissage et c'est un respect mutuel entre ces trois parties. Voilà, je crois que vraiment, quand le jeune sait qu'on connaît son patron, on va dire, il change complètement d'attitude. Et puis moi, comme ça fait 20 ans que je suis là, du coup, je me retrouve avec des maîtres d'apprentissage qui ont été mes élèves. Donc, c'est encore plus... Enfin, je suis tellement fière d'eux parce que, voilà, ils ont réussi. Et maintenant, ils nous font confiance et ils nous redonnent leurs jeunes en formation. Donc là, c'est une très, très belle réussite. C'est la plus belle qu'on puisse avoir, je crois.
Et puis ça permet aussi aux jeunes de voir d'où on peut partir et où on peut arriver.
Tout à fait, tout à fait. Ça, ils ont besoin de modèles, ils ont besoin de voir jusqu'où ils peuvent aller. Et ils peuvent aller très loin dans l'apprentissage. Hein. Vous avez pu remarquer par toutes les interventions qui ont été faites, c'est toujours une très belle réussite.
Alors je vous propose une dernière pause musicale et puis on va faire un petit tour de table pour faire la conclusion.
Stand up for- the ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for our rights. Yeah, yeah, so yeah. You better get up, stand up in the morning. Give it up, stand up for your rights. Stand up, run now. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Monsieur Georges Burba, président de la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Isère, quand vous entendez tous ces témoignages, quelle serait votre conclusion? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement casser définitivement ces préjugés? L'apprentissage, ce n'est pas la voie de garage, comme l'a dit monsieur Thierry Joseph, mais c'est une voie de la réussite pour que les jeunes, et notamment nous, parents, éducateurs, on puisse expliquer aux jeunes que ce n'est pas parce qu'on a un bac plus 5 qu'on va réussir notre vie.
Écoutez, le mot de la fin pour moi, et la richesse de cette formation, c'est la diversité. Et il y a une phrase célèbre d'un régional qui s'appelait Saint-Exupéry, qui dit « Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et je crois qu'on s'enrichit tous dans cet établissement du rapport avec le maître d'apprentissage, du rapport avec l'enseignant, et de ce lien qui se crée entre le maître d'apprentissage et l'enseignant par l'intermédiaire du jeune apprenti, du jeune étudiant. Moi, on appelle, c'est des étudiants, mais bon, moi j'appelle toujours ça des apprentis, parce que c'est un apprentissage. Et c'est ce lien qui est fait, il est vrai qu'on n'a pas ce barrage qu'il peut y avoir dans l'éducation nationale, et je crois de quoi je parle, parce que dans ma carrière, j'y ai passé 14 ans. Nous, nos enseignants, ils sont au contact, je ne veux pas dire quotidien, je vais être menteur, mais permanent avec les maîtres d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi qui est beaucoup plus important des jeunes, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait prendre le téléphone en disant « Tiens, ça coince, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc le jeune est suivi vraiment, et comme Corinne l'a dit, il y a cette confiance qui s'installe entre l'enseignant ici, le maître d'apprentissage et le jeune, qui est valorisé aussi quelque part par cette confiance mutuelle. Donc voilà, cette richesse qu'on trouve ici, c'est des formations complètement différentes, c'est des profils complètement différents qui peuvent arriver à un jeune presque, parce qu'il y en a aussi, hein, en difficulté, ou des jeunes qui arrivent avec une licence. Donc c'est cette mixité qui fait la richesse, c'est ce qui faisait la richesse de l'armée. Tous ces jeunes qui avaient toutes sortes de niveaux et qui apprenaient à lire et écrire l'armée. C'est un peu pareil.
Monsieur Thierry Joseph, là aussi, comment fait-on pour casser ces préjugés? On est dans une société en crise où il y a énormément de chômage. Est-ce que l'apprentissage, justement, n'est pas la voie de la sagesse et on a des très beaux métiers qui seraient à développer?
Mais bien sûr, vous avez tout dit. Bien sûr que, en tout cas, c'est, je crois, la voie de la raison. Par des temps difficiles en matière d'emploi, on sait qu'on a un système qui marche, on sait que ça fonctionne bien. Qu'attend-on pour le développer davantage? En tout cas, ici, à Bourgoin, la Chambre de métiers, le FMA, on n'attend pas. On essaye de mettre en avant, de promouvoir l'apprentissage. Ce genre d'émission doit y contribuer. Puis j'aurais insisté une chose sur... les gens qui écouteront cette émission verront pas le panneau qui est derrière nous, mais on a un petit slogan, c'est « Réinventons la formation ». Formation, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui est en mouvement, parce que les entreprises évoluent, parce que le monde économique change, parce que le public change aussi, et puis il faut régulièrement revoir sa copie pour s'adapter à ces changements. Et Corinne Barre, notre enseignante qui a parlé, je crois que elle a employé les bons mots pour parler de la posture de l'enseignant. On est aujourd'hui plus dans une approche qui consiste à transmettre un savoir. On est dans une dimension relationnelle essentiellement. Et à partir du moment où on sait capter l'intérêt et l'attention du public qu'on a en face de soi, on peut les amener où on veut, les jeunes qui sont là. Et je crois qu'il faut souligner que l'apprentissage, c'est un système, c'est un dispositif. Mais ce dispositif, il fonctionne quand il est porté par une équipe. Voilà. Et je voudrais insister sur le fait que je suis intimement convaincu qu'une des grandes forces de l'EFMA, c'est son équipe. C'est ces enseignants, ce sont ces formateurs, c'est tous les gens qui travaillent ici, qui sont au service des entreprises et des jeunes qui viennent nous voir. Voilà. Et cette relation-là de proximité avec l'entreprise, c'est cette relation de proximité, de confiance avec les jeunes qui fait qu'au final, tout ça, ça fonctionne. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire tout au long de l'année et c'est le message qu'on essaye de livrer aux jeunes, aux entreprises et aux familles.
Alors, sans faire de politique, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider justement des établissements comme le vôtre à pouvoir se développer et à pouvoir continuer d'exister ? Parce qu'on entend parler de tas de choses par rapport à l'apprentissage. Alors déjà, juste une petite question, quels sont vos financeurs ?
Alors, bon, je distinguerai deux aspects dans votre question. Il y a les aspects réglementaires. Je crois qu'on a un besoin urgent de stabilité réglementaire en matière d'apprentissage. Chaque année ou presque, l'environnement change, les aides aux entreprises évoluent, etc. Je crois que première chose, on a besoin de stabilité. On a besoin de visibilité. C'est dans quelque chose qui évolue en permanence. C'est pas de nature à favoriser la prise de décision, ni des jeunes, ni des entreprises. Donc première chose, stabilisons les règles, stabilisons-les de manière à prendre en compte les points sur lesquels il faudrait les améliorer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le plan financier, je crois que l'établissement n'a pas à se plaindre. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on a su acquérir, au travers de notre organisme gestionnaire, la confiance de nos financeurs. Notre premier financeur, c'est le Conseil régional. Le Conseil régional, comme tout financeur public, a ses contraintes. Mais il nous accompagne, je pense, d'une manière qui est, qui dans un contexte oui, aujourd'hui les financements publics sont comptés, est au maximum des efforts qu'il peut faire pour nous. Je crois qu'il faut le dire aussi, et pas en permanence se plaindre donc de l'environnement et puis de nos partenaires financiers. Nos deuxièmes partenaires sur le plan financier sont les branches professionnelles. Parce que derrière les entreprises, il y a des branches professionnelles. On a su aussi construire des relations de confiance avec les branches professionnelles, parce que la confiance est un mot-clé. Et aussi la confiance qu'on a su construire avec les branches professionnelles nous permet aussi d'avoir le soutien de ces branches, en particulier le soutien financier des branches organisées, telles que par exemple la branche donc, des métiers de l'automobile, la NFA. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est un partenaire très fidèle. Et puis ensuite, il y a aussi les financements qui sont sous les entreprises au travers de la taxe d'apprentissage. Et je terminerai avec ça. S'il y a un sujet sur lequel il y a peut-être besoin de revoir la copie, c'est en matière de taxe d'apprentissage. Il n'est pas normal qu'un établissement comme celui-ci, qui est un centre de formation d'apprentis, soit aussi peu doté en taxe d'apprentissage. Et s'il est peu doté, c'est parce que la réglementation actuelle de la taxe d'apprentissage ne nous permet pas de bénéficier en la matière de fonds qui sont ceux dont on aurait besoin. Là, il y a sans doute, sur le plan réglementaire, des lignes à faire bouger.
L'artisanat représente 30% de l'apprentissage en France. C'est-à-dire que, et on touche 5% de la taxe. Chercher l'erreur.
Donc on fait appel à tous nos politiques, nos législateurs, pour qu'ils aillent dans le sens de l'apprentissage, puisque moi je pense, et je pense que tous autour de la table, on est d'accord, c'est aussi une voie de la réussite, et il faut qu'on y aille.
C'est la voie de la réussite et la voie de l'excellence. C'est une voie qui est choisie par les jeunes, c'est la voie des métiers. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas une voie aussi noble que les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas à rougir de ma carrière, ni au point de vue professionnel et d'épanouissement professionnel. Vous savez, quand vous êtes maçon, quand vous partez, que vous avez construit des murs et qu'il y a une famille qui va se loger dedans, vous êtes fier, vous avez fait quelque chose. Et point de vue revenu, j'ai rien à envier à un ingénieur informatique. Je prends cet exemple-là parce que c'est à la mode. J'ai très très bien gagné ma vie. Je vois pas pourquoi cette filière serait pas aussi bonne que les autres. Et en plus, elle débouche sur un emploi, vous rendez compte ? C'est pas beau, ça ?
Monsieur Thierry Joseph, le mot de la fin ?
Le mot de la fin, moi, je voudrais dire que si l'apprentissage à l'EFMA, puisque c'est l'EFMA dont il s'agit aujourd'hui, fonctionne bien, c'est le résultat d'efforts conjugués qui sont ceux d'un organisme gestionnaire, d'une chambre de métier qui soutient et qui proclame haut et fort que l'apprentissage et la formation, c'est important. C'est aussi le résultat de l'investissement de nos équipes parce que, ça a l'air facile quand on en parle. Mais sur le terrain, la réalité est parfois un petit peu plus nuancée que ça et que, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, si au final ça marche pas si mal que ça. On obtient de beaux résultats en termes de réussite aux examens, en termes d'insertion professionnelle. C'est grâce à l'implication des maîtres d'apprentissage et à l'implication des équipes de l'EFMA. La première richesse, elle est là.
Eh bien, je vous remercie. Puis, on vous renvoie sur le site internet de l'EFMA si vous voulez plus d'informations et si vos enfants ont envie de se lancer dans la voie de l'apprentissage. Merci beaucoup à tous.
Merci.
Merci. Merci.
I will survive.
toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h.